VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. 18h30, TTU, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 11 mai 2017. John Linden en direct du studio DEF de VO Africa, Washington. Au sommaire ce soir, la Somalie a besoin d'un véritable soutien international. Appel lancé ce jeudi à Londres par le président somalien. La méningite frappe durement le Nigeria. Plus de 1000 personnes ont déjà trouvé la mort depuis novembre. Coopération judiciaire, le Mali, le Niger et le Tchad unissent leurs forces dans la lutte contre le crime organisé. Mahamat Hassan, ministre tchadien de la Justice.
C'est cette facilité qui va nous aider dans la poursuite et la lutte efficace d'une manière juridique et judiciaire légale contre le crime du terrorisme.
Au Zimbabwe, Mugabe ne dormait pas, il protégeait ses yeux. C'est le démenti formel aux détracteurs du président qui soutiennent l'avoir vu dormir en public. Et puis nous retrouverons Nicolas Pinot à la fin de ce journal pour les sports et Dili Diko pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Rwanda, le corps sans vie d'un militant de l'opposition a été retrouvé. Les forces démocratiques unifiées dénoncent un assassinat. Claire Morin-Gibourg.
Selon les forces démocratiques unifiées, partie de l'opposante emprisonnée, leur militant Jean Damascène Abarugira avait disparu vendredi. Il avait rendez-vous avec un soldat démobilisé du nom de Théophile Bizimana, chargé de la sécurité de son village. Boniface Twagirimana, vice-président de ce parti non reconnu par Kigali, dénonce un assassinat politique. Un membre du même parti affirme avoir vu le corps de M. Abarugira qui porterait des traces de sévices. La police a ouvert une enquête et a confirmé l'arrestation dimanche de Théophile Bizimana, mais refuse de donner plus de détails. Le défunt était en conflit avec les autorités locales depuis plusieurs mois. Il s'opposait à la politique de planification agricole du gouvernement.
Un cinquième casque bleu a trouvé la mort dans l'attaque lundi soir d'un convoi de la mission des Nations Unies en Centrafrique par un groupe armé, a annoncé jeudi l'ONU. Le casque bleu marocain qui avait été porté disparu a maintenant été trouvé mort, a indiqué le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. 4 soldats cambodgiens ont également perdu la vie dans cette attaque, la plus meurtrière contre les forces de maintien de la paix dans ce pays. Amnesty International a annoncé le lancement jeudi d'une campagne baptisée « Justice maintenant » contre l'impunité en Centrafrique, où les autorités assurent que les magistrats de la future Cour pénale spéciale doivent prêter serment d'ici fin mai. Un procureur spécial a été nommé, de même que 4 juges d'instruction, a-t-on appris auprès du ministre de la Justice, Flavien Bata, laissant entendre que les travaux débuteront ensuite. Les parlementaires du nord du Nigeria ont ouvert une enquête sur des supposés détournements de fonds visant l'émir de Kano, Muhammadu Sanissi II, l'un des principaux chefs traditionnels musulmans du pays, dont les positions progressistes sont très controversées dans l'état conservateur de Kano, a-t-on appris jeudi de sources législatives. Les partisans de l'émir, qui avant sa nomination en 2014, étaient gouverneurs de la Banque centrale du Nigeria, affirment que ces accusations visent à le discréditer ainsi que ses opinions progressistes. Une épidémie de méningite frappe durement le nord du Nigeria. Plus de 1000 personnes sont décédées depuis novembre, mais les autorités médicales assurent que la maladie est sous contrôle. Abdourahman Dia.
Selon le Centre national de surveillance des maladies, plus de 13 000 cas de méningite ont été recensés jusque-là, dont 1069 décès. L'épidémie est présente dans la moitié des 36 États du Nigeria. Les premiers cas d'infection par le virus de la méningite de souche C ont été rapportés dans l'état de Zamfara en novembre dernier, puis la maladie s'est propagée dans 22 autres états avant que les autorités ne lancent une campagne de vaccination massive. Le ministère de la Santé avait déclaré début avril que près de 420 000 personnes avaient déjà été vaccinées. Fin avril, le nombre de personnes vaccinées est passé à 800 000 dans le seul état de Sokoto. Les épidémies de méningite ne sont pas rares au Nigeria, qui se situe sur la ceinture de la méningite qui court du Sénégal à l'Éthiopie.
Des prélèvements sur des victimes de la maladie non identifiée signalées depuis plus de deux semaines au Libéria se sont avérés positifs à la méningite, a-t-on appris mercredi auprès des autorités médicales. Au total, 31 cas, dont 13 décès à ce jour, ont été enregistrés dans trois provinces. Les premiers symptômes de la maladie, qui provoquent notamment fièvre et vomissements, ont été enregistrés le 23 avril dans la province de Sinoué, mais des cas ont aussi été recensés à Monrovia, d'après les autorités libériennes et l'Organisation mondiale de la santé. Le porte-parole de Robert Mugabe a apporté un démenti formel aux détracteurs du président zimbabwéen qui soutiennent l'avoir vu dormir lors des prestations publiques. Selon lui, il se protège de la lumière des spots. Blanche Sanou.
Dans le très sérieux quotidien national du Zimbabwe, George Charamba défend son patron. Il écrit, et je cite, « Quand je lis que le président dort aux conférences, je pense qu'il y a une erreur. » Il poursuit. Le président ne peut pas supporter les lumières fortes. Si vous observez avec attention, il regarde juste vers le bas pour éviter l'éclairage direct. Pourtant, Robert Mugabe, 93 ans, a été souvent pris en flagrant délit somnolent en plein sommet de l'Union africaine ou faisant la sieste au milieu du Forum économique sur l'Afrique qui s'est tenu récemment à Durban, en Afrique du Sud. Pour convaincre ceux qui douteraient de ses propos, M. Charamba a pris l'exemple de Nelson Mandela. « Souvenez-vous de Mandela », a-t-il écrit, « on n'avait pas le droit d'utiliser le flash pour le prendre en photo. C'est ce qui se passe quand on a 93 ans. Pour le prendre au mot, le plus vieux président du monde ne dort pas, mais ne supporte pas la lumière. D'ailleurs, M. Mugabe s'est rendu à Singapour rien que pour se faire soigner les yeux. »
Le président de l'instance en charge des élections en Tunisie, dont la démission a provoqué une onde de choc, a expliqué mercredi qu'il entendait tirer la sonnette d'alarme sur la difficulté d'organiser un scrutin crédible. Alors que des municipales sont prévues le 17 décembre, Chafik Sarbar, personnalité très respectée en Tunisie, a annoncé mardi sa démission de l'instance supérieure indépendante pour les élections en laissant entendre qu'il ne pouvait plus travailler de manière impartiale et transparente. Le vice-président chinois Li Yuanshao était jeudi en visite officielle au Burundi, pays en crise dont les autorités saluaient le caractère historique de ses déplacements et soulignaient le précieux soutien de la Chine. L'aide chinoise au Burundi s'est accrue au cours des dernières années. La Chine est en train de construire un grand palais présidentiel à la périphérie nord-est de Bujumbura, des routes, un barrage et des écoles. Elle vient aussi d'octroyer une aide alimentaire de 5000 tonnes de riz au Burundi. Plus de 2 millions de spectateurs sont attendus à Rabat pour la 16e édition de Mawazine, l'un des plus grands festivals au monde, qui accueille du 12 au 20 mai une centaine de groupes, chanteuses et chanteurs. Sur scène défileront des artistes aussi variés tels que le rappeur américain Wiz Khalifa, l'ex-chanteuse des Fugees, Lauryn Hill, le très bling-bling rappeur français Booba, l'ivoirien Alpha Blondie, le couple malien Amadou et Mariam, ou encore l'angolais Bonga.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Somalie a besoin d'un véritable soutien international pour ses plans de reconstruction et de stabilisation, ont déclaré les participants à une conférence sur la Somalie à Londres. Gabi Dorsil.
Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a appelé jeudi la communauté internationale à aider son pays à lutter contre ses ennemis que sont le terrorisme, la corruption et la pauvreté lors de la conférence de Londres. Il a déclaré que son pays a besoin d'un programme économique robuste pour se remettre complètement d'un quart de siècle de guerre et de chaos. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé 900 millions de dollars d'aide additionnelle pour la Somalie, pays touché par la sécheresse. « Nous pouvons faire pencher la balance et passer du danger à la sécurité », a dit M. Guterres à l'ouverture de cette conférence, coprésidée par le président somalien et la première ministre britannique Theresa May. La conférence de Londres s'est concentrée sur l'amélioration de la sécurité, de la gouvernance et de l'économie en Somalie.
Le directeur par intérim du FBI a cherché à rassurer le Congrès aujourd'hui sur l'indépendance de l'enquête sur les ingérences présumées de la Russie durant la campagne électorale, deux jours après le limogeage soudain par Donald Trump de l'ancien directeur James Comey. Le travail des hommes et des femmes du FBI continue, quels que soient les changements de circonstances, quelles que soient les décisions, a déclaré le chef par intérim Andrew McCabe, ancien numéro 2, lors d'une audition au Sénat. Interrogé plus tard par un sénateur démocrate, il s'est engagé à ne pas informer le président Donald Trump ou la Maison-Blanche sur le statut de ses investigations. L'ONU a indiqué jeudi qu'elle était en discussion avec l'Iran, la Russie et la Turquie au sujet du contrôle des zones de sécurité en Syrie, une question clé après le refus de Damas d'accepter des observateurs internationaux. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, et Jean Egeland, chef du groupe de travail sur l'aide humanitaire en Syrie, ont tous deux jugé prématuré d'exclure tout scénario. 5 sessions de négociations ont déjà été organisées à Genève depuis janvier 2016. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Diko.
Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont progressé de 16,8%, atteignant près de 39 milliards de dollars au premier trimestre 2017. Une progression exceptionnelle, la plus importante hausse trimestrielle depuis 2015. Cette performance s'explique par un accroissement de 48% des importations en provenance d'Afrique et une augmentation de 64% des investissements directs non financiers de la Chine sur le continent. Djibouti, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont connu une hausse de plus de 100% des IDE chinois sur cette période. Au Burkina, la start-up Fasosoap a créé un savon permettant de lutter contre le paludisme. Utilisable pour le corps et la lessive, il permet de lutter contre la malaria grâce à son odeur repoussant les moustiques. Le savon sera proposé au même prix qu'un savon classique, nettement moins coûteux qu'un traitement anti-malaria. Dès sa création, le projet Fasosoap a remporté le Grand Prix de la Global Social Venture Competition de l'Université Berkeley aux États-Unis et l'OMS pourrait bientôt homologuer ce savon anti-palu. En Égypte, le canal de Suez a rapporté près de 854 millions de dollars au cours des mois de mars et avril 2017. Ce résultat représente une hausse de 4,1% par rapport aux revenus obtenus sur la même période en 2016. Le canal de Suez, le chemin le plus rapide entre l'Europe et l'Asie, est l'une des principales entrées d'argent de l'Égypte, mais ses rendements sont inférieurs aux attentes du gouvernement.
Qui ne trompe pas, Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par le cyclisme Tour du Bénin. Le Burkinabé Bachirou Moniang remporte la deuxième étape.
Eh oui, l'étape entre Dassa Zoumé et Boïko, longue de 80 km, a permis aux Burkinabés de montrer encore leur suprématie. Une nouvelle fois, c'est un étalon Bachirou Moniang qui s'impose en solitaire à l'issue de cette deuxième étape, le temps 1h54 minutes et 10 secondes. Résultat, c'est désormais un autre Burkinabé, en l'occurrence Abdulaziz Nikema, qui est maillot jaune. Pour la troisième étape, ce sera demain entre Boïkon et Ouida, une distance de 115 km.
Ce jeudi, place à la Ligue Europa en football.
Lyon tentera de réaliser l'exploit tout à l'heure en demi-finale retour de la Ligue Europa face à l'Ajax d'Amsterdam et comptera pour cela sur son meilleur buteur Alexandre Lacazette, remis de sa blessure aux ischio-jambiers. À l'aller aux Pays-Bas, les Lyonnais s'étaient inclinés lourdement 4 buts à 1. Dans l'autre demi-finale de la soirée, Manchester United qui joue sa saison après sa victoire à l'aller 1 but à 0 en Espagne sur la pelouse du Celta Vigo.
Le Suédois Ibrahimovic, très loin de la retraite, selon son chirurgien.
Oui, le Suédois de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, est dans une telle condition physique à 35 ans qu'il a encore de nombreuses années d'activité devant lui, a affirmé son chirurgien au South China Morning Post. On se souvient qu'après une déchirure des ligaments croisés fin avril en quart de finale retour d'Europa League contre Anderlecht, Ibrahimovic avait été opéré début mai à Pittsburgh par ce chirurgien qui a l'habitude des sportifs de haut niveau.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain. Les playoffs se poursuivent entre Washington et Boston.
Les Celtics de Boston sont repassés en tête face aux Wizards de Washington dans leur duel du deuxième tour des playoffs en s'imposant 123-121 dans leur salle. Les Celtics mènent 3-2 dans cette série. Ils n'ont plus besoin que d'une seule victoire pour accéder à la finale de la conférence Est. Le sixième match, ce sera demain à Washington entre les deux équipes. On rappelle que le vainqueur de ce match rencontrera le champion en titre Cleveland qui vient d'enchaîner 8 victoires de suite dans ses playoffs, 4 contre Indiana et 4 contre Toronto.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour et on commence par cette coopération judiciaire entre le Niger, le Mali et le Tchad. Les trois pays entendent lutter non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre le crime organisé, le trafic de drogue, la traite des personnes et le trafic d'armes. Une mesure historique qui abolit les frontières juridiques et judiciaires entre les trois pays, a déclaré Ahmad Mahamad Hassan, ministre tchadien de la Justice, joint par Morgan Guiriek.
Entre le Tchad, le Mali et le Niger, il n'y a plus de frontières en matière juridique et judiciaire. Ça ne couvre pas seulement les questions du terrorisme, mais également toutes les autres infractions d'ordre pénal, mais également commerciales et civiles. Donc cet accord de coopération permettant à nos magistrats et à nos officiers de police judiciaire de pouvoir poursuivre toute forme d'infraction criminelle et autres, ça va faciliter les échanges en matière de recherche et d'enquête judiciaire entre les trois États, les trafics de la criminalité transfrontalière, mais également le terrorisme qui infeste la sous-région du Sahel, nous pose un problème, pas seulement de gestion militaire comme nous le faisons en mettant nos forces de défense et de sécurité ensemble, mais également la question de la prévention en matière de recherche judiciaire, de faciliter les enquêtes, les poursuites et les qualifications des infractions et la recherche des délinquants dans le cadre des échanges des documents, les mandats d'arrêt, les mandats de recherche et les commissions rogatoires.
Qu'est-ce qui va changer avec ce texte?
Les magistrats tchadiens, les magistrats maliens et les magistrats nigériens n'auront plus à avoir une imposition des procédures diplomatiques lourdes passant par les ministères des Affaires étrangères et autres. Les magistrats eux-mêmes, d'une manière directe, pourraient s'échanger les délinquants à tout moment, de part et d'autre des frontières. C'est cette facilité qui va nous aider dans la poursuite et la lutte efficace d'une manière juridique et judiciaire légale contre le crime du terrorisme.
La lutte contre le terrorisme par des moyens juridiques.
Exactement, c'est le moyen juridique, mais vous savez que les frontières et les questions de souveraineté nous causaient des blocages inutiles si ces frontières sont respectables du point de vue politique. Mais en matière judiciaire, il ne faudrait pas qu'il y ait ces entraves qui annulent les efforts en matière de lutte efficace contre le terrorisme.
Les pays concernés sont le Niger, le Mali et le Tchad. Alors pourquoi pas d'autres pays qui sont également affectés par le terrorisme, tels que le Burkina Faso par exemple?
Il y a le Burkina que vous venez de citer, mais il y a également le Cameroun qui est d'une autre tradition juridique, notamment celle du Commonwealth. Donc il y a beaucoup d'États qui pourraient nous rejoindre. La vitalité de cet accord convaincra les autres à nous rejoindre pour qu'on puisse constituer une même famille juridique et judiciaire.
Ahmad Mahamad Hassan, ministre tchadien de la Justice.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, la clôture du dialogue national ouvert le 28 mars prendra finalement fin le 25 mai au lieu du 10 comme initialement prévu. Les participants estiment qu'ils ont besoin de plus de temps pour se mettre d'accord sur des questions essentielles comme la réforme des institutions et le redécoupage électoral. Selon Genia Moulissa, joint René Ndemezo Obiang, président de Démocratie Nouvelle, coprésident de la délégation de l'opposition au dialogue.
Au moment où nous parlons, je ne peux pas vous dire sur quel point nous sommes tombés d'accord ou sur quel point nous ne sommes pas tombés d'accord, parce que le principe du déroulement du dialogue, c'est que ce sont des discussions à huis clos. Et nous ne voulons pas que par un affichage de position à l'extérieur, les positions de chacune des parties viennent à se cristalliser, à se braquer, alors que nous sommes en pleine discussion. Tout ce que je peux dire, c'est que sur toutes les thématiques du dialogue, vous savez que le dialogue se déroule dans quatre grandes commissions, les discussions se poursuivent, qu'il y a de nombreux sujets qui nécessitent des discussions très longues, voilà pourquoi cela prend beaucoup de temps.
Et pourquoi le dialogue a été prolongé de 15 jours ?
Il a été prolongé de 15 jours précisément parce que les questions sont sérieuses et donc si on ne veut pas les escamoter, elles nécessitent des discussions de fond. Ces discussions de fond qui se prolongent sur la plupart des questions nécessitent qu'on prenne un peu plus de temps. Voilà pourquoi de manière responsable et de manière consensuelle, les délégués de l'opposition et de la majorité sont tombés d'accord sur une prolongation de 15 jours supplémentaires pour ne pas bâcler les questions et aller au fond des questions.
Est-ce que ce qui sortira de ces dialogues aura un effet sur les législatives ?
Naturellement, ça aura un effet global, non seulement sur les législatives, mais j'espère bien sur l'ensemble de la marche du pays. Cela aura un effet sur les législatives en ce sens d'abord que l'une des questions discutées au cours de ce dialogue national porte sur le redécoupage électoral. Il est donc possible qu'à l'issue de ce dialogue, on ait des circonscriptions électorales dont la configuration n'est pas exactement celle qu'elle était avant ce dialogue. Il n'est pas impossible non plus que par rapport aux sièges députés, il y en ait quelques-uns de supplémentaires. C'est une possibilité. Deuxièmement, nécessairement, ça va prendre du temps, la mise en œuvre de toutes les réformes qui vont être décidées au dialogue. Ça va prendre du temps et ce temps fait en sorte qu'il est inenvisageable d'aller aux élections sans que toutes les réformes aient été mises en œuvre, notamment les modifications qui touchent au code électoral et un certain nombre de dispositions concernant l'organisation des élections. Ce qui fait que naturellement, ça va amener à un décalage dans l'organisation des élections législatives qui était initialement prévue au mois de juillet et qui, à l'évidence, ne pourront pas se dérouler à cette date-là, mais à une date que le dialogue va proposer en fonction de tout ce qu'il y aura comme travail à faire en termes de réforme.
René Ndemeza-Obiang, co-président de la délégation de l'opposition au dialogue politique national du Gabon.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Burkina Faso, une proposition de loi relative à l'exercice du droit de grève dans les services publics inquiète les syndicats. Ils dénoncent le texte qu'ils qualifient de liberticide. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Norbert Ouangré, le secrétaire général adjoint de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso.
Vous voulez une destruction de la liberté syndicale, notamment du droit de grève, à travers de multiples dispositions qui remettent notamment en cause le droit de grève. Ça veut dire que si on doit suivre ce qui est édicté là, aucune grève n'aura plus aucun effet.
Par exemple?
Un exemple, la grève est désormais interdite à certains personnels, comme la douane, la police, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers. Elle est désormais interdite aux responsables administratifs, donc depuis les directeurs centraux jusqu'aux directeurs de service et à certaines catégories de travailleurs. Ensuite, il y a l'obligation de négociation préalable avant d'engager une action de grève.
Ça, c'est une bonne chose, non?
Pourquoi?
Négocier, si on peut obtenir ce qu'on veut par négociation avant toute grève, tout le monde gagne.
Oui, mais ça, est-ce qu'on a besoin d'écrire ça? Puisque le préavis de grève, là, il y a déjà un appel à négocier. Généralement, nous déposons le préavis 15 jours avant. Et 15 jours avant, l'État a, le gouvernement a la latitude de nous appeler et de faire des propositions. Personne n'a, aucun syndicat n'a jamais refusé d'aller sur la table de négociation.
Et à votre avis, qu'est-ce qui pousse le pouvoir à faire une telle proposition de loi?
On peut imaginer facilement que c'est une réaction aux luttes qui se mènent actuellement au niveau des divers secteurs d'activité que cette proposition de loi a été imaginée, en fait, pour empêcher les grèves, pour faire en sorte que les grèves ne puissent plus porter fruit.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'il y a quand même un abus du droit de grève? Qu'est-ce que vous dites à ceux-là?
Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder le rythme, il faut regarder les problèmes qui sont posés. Est-ce que c'est des problèmes objectifs ou pas? Et quand vous considérez que dans bien de cas, il s'agit d'engagements qui ne sont pas tenus, on ne peut pas reprocher aux travailleurs de faire beaucoup de mouvements directs.
Pour arrêter cette proposition de loi avant qu'elle ne devienne une loi, qu'est-ce que vous comptez faire?
On produit une lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale sous couvert président de la commission, où nous relevons que la proposition de loi effectivement est une remise en cause du droit de grève, qu'elle viole certaines conventions du PIT relatives justement au droit de grève, comme la convention 87, la convention 98, et nous signifions que nous sommes fermement opposés à cette proposition de loi et nous l'invitons à la retirer. Si on veut nous empêcher de jouir du droit de grève, nous allons mener la grève.
Norbert Ouangré, secrétaire général adjoint de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le président américain Donald Trump a justifié le limogeage du directeur du FBI, James Comey, en affirmant que sa décision n'avait aucun lien avec l'enquête de la police fédérale sur une éventuelle collusion avec la Russie. Mais sa déclaration n'a pas affaibli la tempête politique qui frappe Washington depuis l'annonce de ce renvoi spectaculaire. Ses détracteurs, dont les démocrates, exigent la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur les allégations de possibles liens entre Moscou et des membres de l'équipe de campagne de M. Trump. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
À la Maison-Blanche, hier, après sa rencontre avec l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, le président Trump a été interrogé sur sa décision de licencier le patron du FBI.
Monsieur le Président, pourquoi avez-vous limogé James Comey ?
Parce qu'il ne faisait pas du bon travail. C'est très simple. Il ne faisait pas du bon travail.
Dans sa lettre à James Comey, le président Trump écrit avoir agi en fonction des recommandations des hauts responsables du ministère de la Justice, préoccupé par la façon dont il a géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton l'an dernier. Le limogeage à surprise de James Comey a entraîné des manifestations devant la Maison-Blanche et provoqué un tsunami politique dans le pays. Les démocrates du Congrès réclament que le ministre adjoint de la Justice, Rod Rosenstein, nomme dès maintenant un procureur indépendant pour diriger les investigations sur de présumées interférences russes et une éventuelle coordination entre Moscou et des proches de M. Trump durant la dernière campagne présidentielle américaine. Le chef de file de l'opposition démocrate du Sénat, Chuck Schumer.
S'il croit comme moi que le peuple américain mérite d'avoir confiance en l'impartialité de cette enquête, il doit nommer un procureur spécial et faire sortir de cette enquête des mains du FBI et surtout de bien l'éloigner de la présente administration.
La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a rejeté les accusations des démocrates selon lesquelles le limogeage visait à mettre aux oubliettes l'enquête sur la Russie.
Il n'y a aucune preuve de collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et la Russie. Et en fait, nous aimerions que cette enquête soit bouclée afin que nous puissions tous passer à autre chose.
Certains républicains ont également exprimé leur inquiétude face au renvoi de James Comey et à son impact sur l'enquête du FBI. Mais le leader de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, qui s'oppose à la nomination d'un procureur spécial, a déclaré que les démocrates n'arrêtaient pas de critiquer les agissements de M. Comey lors de l'enquête impliquant Mme Clinton pendant la campagne présidentielle.
Nos collègues démocrates osent se plaindre du limogeage de ce même directeur du FBI, sur qui il tirait à boulet rouge, à maintes reprises et à vive voix.
La décision de M. Trump soulève beaucoup d'interrogations qui toutefois prendront du temps pour éclaircir. Le président Trump a maintes fois rejeté les accusations de collusion avec la Russie, les qualifiant de canulars. Mais pour des observateurs, les derniers événements pourraient au bout du compte faire déclencher une enquête encore plus robuste sur les liens possibles entre Moscou et son équipe de campagne.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace out.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Michel Joseph. Patrick Teia était à la console. Présentation John Lyndon. Retrouvez Tatiana Mosso juste après moi pour Washington Forum. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.